France Culture.
L'heure du journal de la rédaction qui vous est présenté par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'inconnus et d'incertitudes au lendemain des plans d'action présentés par François Bayrou pour stopper l'augmentation de la dette et relancer la production. Les oppositions brandissent la menace de la censure dès la rentrée parlementaire. Une marche solidaire dans les rues d'Avignon pour réclamer la libération du journaliste Christophe Glaise, emprisonné en Algérie. Son frère déplore le manque de nouvelles, vous l'entendrez dans ce journal. Nous irons à Bruxelles où les agriculteurs se mobilisent. Aujourd'hui, ils redoutent que le prochain budget de la PAC, la politique agricole commune, leur soit moins favorable. Enfin, des affrontements continuent dans le sud de la Syrie. On parle désormais d'au moins 248 morts. Sur place, les forces gouvernementales sont accusées de nombreuses exactions. Les Israéliens ont par ailleurs bombardé ce matin le quartier général de l'armée syrienne à Damas. Le budget en hausse de la défense ayant été sanctuarisé en début de semaine par le chef de l'État, c'est donc finalement près de 44 milliards d'euros qu'il va falloir économiser l'année prochaine, a reconnu hier après-midi le Premier ministre. François Bayrou a présenté non pas un, mais deux plans d'action censés courir sur 4 ans pour stopper l'augmentation de la dette et relancer la production. Pendant plus d'une heure, le chef du gouvernement a égrené les mesures à prendre. Il a promis que l'État serait exemplaire, mais il a surtout ciblé les ménages français et épargner les entreprises. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
On ne va pas refaire ici la liste des propositions du locataire de Matignon pour éviter de tomber de la falaise, pour reprendre l'une des métaphores utilisées hier. Au-delà du quitte ou double très politique de François Bayrou, avec vous regardons plutôt les inconnus et les incertitudes qui demeurent aujourd'hui.
Oui, alors les inconnus, ce sont les points sur lesquels le Premier ministre a donné très peu de détails. Prolixe et précis sur les changements qui affecteraient les Français en affection de longue durée, l'augmentation de la franchise médicale ou les arrêts maladie. François Bayrou n'a évoqué que très succinctement la contribution des personnes les plus aisées à cet effort de solidarité. Toujours avec la même impasse sur le patrimoine. Les plus hauts revenus devraient être mis à contribution l'an prochain, comme cette année, mais pour les plus hauts patrimoines, aucun nouvel impôt à part ceci.
Nous prendrons des mesures complémentaires pour lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs.
Voilà, c'est la seule fois où le mot patrimoine aura été prononcé et l'inconnu est donc total sur ce qui va être considéré comme un patrimoine non productif. Difficile d'en attendre des milliards. Pas à court terme en tout cas, car aujourd'hui déjà les contrôleurs fiscaux redressent les cas d'optimisation agressive, ce qui donne lieu à des contentieux juridiques qui s'étalent sur des années. Alors d'où viendront les 4,2 milliards d'euros intitulés mesures d'équité fiscale ? C'est un mystère. Autre inconnu, les niches fiscales et sociales dont le Premier ministre espère 3,5 milliards, le crédit impôt recherche, l'emploi d'un salarié à domicile, les dons aux associations, cela peut être beaucoup de choses touchant des publics très différents. Sur le deuxième volet, en avant la production. Il faut signaler une grande incertitude sur la suppression des 2 jours fériés. Selon une étude antérieure de l'INSEE, cela aurait un effet à la hausse sur le PIB de 0,1%, soit 3 milliards d'euros. Cela fait potentiellement des cotisations sociales en plus, mais seulement une fraction de ces 3 milliards. Alors comment le gouvernement arrive-t-il à 4,2 milliards d'euros d'économie grâce à cette mesure ? Là encore, cela demande des éclaircissements.
Merci beaucoup Marie Viennot. Parmi les mesures promises hier par François Bayrou, il y a celle qui concerne la fonction publique. Pour faire des économies, le chef du gouvernement propose de ne plus remplacer tous les départs à la retraite. Un poste sur 3 ne donnera pas lieu à un recrutement. À cela s'ajoute la suppression de 3000 fonctionnaires l'année prochaine. Pour la secrétaire générale du SNES-FSU, le principal syndicat des enseignants du secondaire, les professeurs qui représentent le plus gros contingent de la fonction publique ne passeront pas à travers les mailles du filet. Sophie Vénétité le dit à Hakim Kasmi.
Pour l'instant, on n'a pas de chiffres, mais on a compris que l'éducation nationale ne serait pas épargnée par la vague de suppression de postes. On a bien entendu aussi qu'à partir de 2027, la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite serait appliquée. Or, l'éducation nationale fournit le gros des troupes à la fonction publique. Donc, on va certainement payer un lourd tribut à cette politique de suppression d'emplois. Là aussi, c'est très grave et c'est irresponsable. On a besoin de conforter l'école, on a besoin de plus d'adultes face aux élèves. On est face à des enjeux qui sont immenses, on l'a vu ces derniers mois. On a besoin de faire face à tous les maux de la société dans l'école. Supprimer encore des postes d'enseignants, supprimer encore des postes de personnel de l'éducation nationale, ça ne peut faire qu'aggraver la crise de l'école, la crise de la société. On est là face finalement à un choix de société qui est fait par François Bayrou, où l'école est durablement affaiblie, où l'école est mise à mal, et ça va avoir de très lourdes conséquences pour les élèves, mais aussi pour l'ensemble de la société.
Et le discours de François Bayrou a très rapidement fait réagir les oppositions. Certains ont même tweeté leur mécontentement bien avant la fin de l'allocution du Premier ministre. À gauche comme à l'extrême droite, un consensus semble se dégager pour dire que le gouvernement est sur la sellette. Bonjour Antoine Maretz.
Bonjour Olivier.
La censure semble être un objectif envisageable ou à atteindre, c'est selon.
Effectivement, il y a celle qui annonce d'ores et déjà la couleur, la France insoumise. Nous censurons cette politique de malheur, affirme Mathilde Panot. La chef de file des députés LFI dénonce, je cite, des cadeaux faits aux plus riches en faisant courir un risque récessif au pays. Il s'agit pour elle d'une véritable guerre sociale, déclarée par François Bayrou. Côté Rassemblement national, on est plutôt dans la menace. Si François Bayrou ne revoit pas sa copie, nous le censurons, prévient Marine Le Pen, qui regrette l'absence d'économie, je cite, sur le coût de l'immigration, des subventions aux énergies renouvelables, sur la contribution à l'Union européenne ou encore sur la bureaucratie à l'hôpital ou dans l'enseignement. Menace également du côté du PS qui juge, par la voix de son premier secrétaire, la copie présentée purement inacceptable. Sur les bases actuelles, la censure est la seule perspective, selon Olivier Faure. Ce qui n'empêchera pas les socialistes de faire leurs propres propositions à la rentrée. Sous-entendu, si le gouvernement revoit sa copie, il est possible que les députés du Parti socialiste fassent preuve de mansuétude. Pour faire tomber le gouvernement, il faudrait que la gauche et l'extrême droite votent la censure. Si le PS ou le RN s'abstiennent, François Bayrou sauve sa tête. Il faudra donc convaincre au moins l'un des deux groupes. Pas d'inquiétude particulière en revanche du côté de LR, qui fait partie de la coalition gouvernementale. Le patron des députés républicains, Laurent Wauquiez, tente juste de pousser le curseur un peu plus à droite. Il demande, je cite, un plan de lutte contre l'assistanat, d'aller plus loin sur la limitation des dépenses et le train de vie de l'État, et enfin de s'attaquer aux dépenses indues liées à l'immigration. Fin de citation.
Merci beaucoup Antoine Maret. On notera par ailleurs ce satisfait site du chef de l'État Emmanuel Macron. Salue un projet de budget qui, dit-il, favorise la croissance. Une baisse de 0,7%, voilà à quoi doivent s'attendre les Français qui possèdent un livret A. Le taux de cette épargne va changer le 1er août prochain. Il restera supérieur à l'inflation. Les banques auront donc moins d'intérêts à verser. Les acteurs du logement social pourront, eux, emprunter à un taux plus intéressant. La cellule d'investigation de Radio France affirme que plusieurs enquêtes sont ouvertes pour homicide involontaire après la mort de 5 jeunes sur leur lieu de travail ces 2 derniers mois. 4 d'entre eux étaient mineurs. À chaque fois, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée. La ministre du Travail doit annoncer un renforcement des formations de sécurité. Les syndicats réclament, eux, plus de contrôle et des inspecteurs supplémentaires. Une réunion particulièrement houleuse hier soir à Marseille. La semaine dernière, 90 maisons ont été touchées par l'incendie dans le nord de la ville. Les sinistrés ont mis en cause la chaîne de commandement. On notera que 3 départements sont en ce moment en vigilance rouge au feu de forêt dans le sud-est de la France. Le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont concernés par cette alerte liée au retour du Mistral et de la Tramontane. Confrontés depuis 4 ans maintenant à une sécheresse historique, les Pyrénées-Orientales vont se doter d'une énorme station de traitement des eaux usées réservée aux agriculteurs. Les travaux viennent de débuter pour irriguer l'année prochaine plus de 650 hectares de vergers et de vignobles. Ce projet va coûter 13 millions d'euros. Une 100 personnalités demandent la libération de Christophe Glaise, des acteurs, des écrivains, des animateurs de télé et de radio. Dans une tribune publiée par Reporters sans frontières, ils réclament tous la libération du journaliste condamné et emprisonné en Algérie, en même temps que l'écrivain Boualem Sansal. Les proches de Christophe Glaise ont par ailleurs lancé une pétition en ligne et créé un comité de soutien. Son frère a également organisé ce matin une manifestation dans les rues d'Avignon, une marche solidaire en direction du Palais des Papes. Au micro de Marie Bernardo, Maxime Glaise déplore les difficultés à franchir pour avoir de ses nouvelles. Il rappelle également que son frère n'a jamais écrit de papier politique, lui qui travaille pour un magazine sportif.
La seule fois où on a pu rentrer en contact avec lui, c'était il y a 1 semaine et demie, 3 jours après sa condamnation, où on a eu des nouvelles de l'avocat. Et depuis, son avocat va lui rendre visite toutes les deux semaines pour avoir des nouvelles. Mais c'est vrai que nous, on est un peu dans le flou depuis deux semaines, donc c'est assez perturbant. Il pourra avoir une aide consulaire et un droit de visite de la famille, mais on a appris il n'y a pas longtemps que cette aide peut durer pendant 6 mois. Mais cette procédure peut durer 6 mois, donc c'est insupportable pour nous. Mes parents ont été quand même reçus dans le cabinet de Jean-Noël Barrot et aussi dans les plus hautes sphères de l'État, donc le dossier est une priorité. Nous avons le soutien des autorités françaises, sauf qu'après, je suis pas dans les bureaux. Je sais pas s'il va y avoir des contacts entre notre président Macron et le président Tebboune sur le cas de Christophe Glaize. Donc, pour l'instant, on reste dans le flou. En tout cas, le dossier est traité. Après, moi, c'est vrai que tant que tout le monde essaie de trouver un arrangement, mon frère, en fait, est emprisonné injustement depuis 1 an. En tout cas, il y a un contexte géopolitique qui n'est pas favorable. Mon frère ne fait pas de politique, en fait. Donc, il est pris dans des enjeux qui le dépassent. Et je mets au défi quiconque de ressortir un article, un papier de mon frère qui ne soit ni de la politique, qui ne soit que du foot et qui soit dans des termes amélioratifs sur le continent africain.
2 ans de négociations tendues, voilà à quoi s'attend désormais la Commission européenne. Elle met aujourd'hui sur la table sa proposition de budget pour la période 2028-2034. Alors que les États membres se sont engagés à investir davantage dans le secteur de la défense, les agriculteurs sont inquiets. La PAC, la politique agricole commune, pourrait en pâtir. À Bruxelles, les précisions de Fabien Cazot.
Ce que les agriculteurs redoutent par-dessus tout, c'est de voir leur budget propre dilué dans un budget plus large consacré aux aides régionales. Une fusion qui rendrait moins lisible l'évolution des crédits qui leur sont alloués. À droite, l'eurodéputée Céline Imar, elle-même agricultrice, compte se montrer particulièrement vigilante sur ce sujet hautement inflammable.
Si les fonds agricoles venaient à être fusionnés dans une sorte de fonds unique, il faut absolument que les fonds agricoles soient protégés par une sorte de cordon de protection intouchable, c'est-à-dire qu'au niveau des États membres, il est impensable d'aller tous les ans renégocier avec Bercy ou avec les ministères les fonds agricoles. Il faut que ces fonds-là soient absolument sanctuarisés.
Autre préoccupation majeure, la priorité donnée à l'effort de défense dont les agriculteurs craignent d'être victimes. Une inquiétude relayée dans l'hémicycle européen, à gauche cette fois, par l'Irlandais Luke Flanagan.
Les pays européens parlent de consacrer 5% de leur richesse nationale à l'armement, alors qu'on ne dépense même pas 0,5% pour notre nourriture. Nous devons d'abord dépenser pour notre nourriture avant de dépenser pour acheter des armes.
Plusieurs organisations agricoles européennes ont prévu d'organiser un rassemblement aujourd'hui sous les fenêtres de la Commission à Bruxelles.
On parle désormais de près de 250 morts dans le sud de la Syrie. À l'origine de ces violences, des affrontements entre bédouins et miliciens drus. Le nouveau régime de Damas a envoyé des soldats sur place qui ont participé aux affrontements. Israël, de son côté, a bombardé la région à plusieurs reprises. La ville de Souaïda a été prise pour cible. Une partie de la population a pris la fuite. Bonjour Marie-Pierre Vérot.
Bonjour à vous.
Vous êtes notre correspondante dans la région. Annoncé par le ministre de la Défense, le cessez-le-feu n'a pas tenu longtemps. Les combats ont repris ce matin et plusieurs témoins affirment que les forces gouvernementales ont commis de nombreuses exactions sur place.
Oui, comme sur la côte au printemps contre les Alaouites, plusieurs témoignages font en effet état d'exécutions sommaires, de scènes d'humiliation. Des vidéos dénoncent les crimes d'une partie de l'armée et de groupes sunnites radicaux qui lui sont alliés. Des meurtres dans les villages environnants, puis dans la ville de Souaïda, où les forces de sécurité syriennes sont entrées hier. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a ainsi documenté le meurtre de 12 personnes d'une même famille dans l'assaut contre une maison d'hôte. Les images montrent leurs corps gisants dans un salon sacré. Les femmes n'ont pas été épargnées. Des cadavres jonchent aussi les rues sans qu'il soit facile de distinguer ceux des civils de ceux des combattants de milices sans uniforme. Des habitations, des magasins ont été pillés et incendiés. Une désastreuse opération de l'armée syrienne dans le Jabal Druze qui a soudé la population locale contre Damas. Mais les milices druzes ne sont pas exemptes. D'autres vidéos et images montrent des soldats dépouillés de leurs chaussures et froidement exécutés. Des miliciens druzes posent à côté des cadavres en faisant le V de la victoire. Sur les quelques 250 morts, la moitié sont des membres des forces de sécurité. L'armée reste par ailleurs sous la pression des bombardements d'Israël, qui se veut le protecteur des druzes. Bombardements renouvelés de l'aviation dans le sud, mais aussi ce midi à Damas, le quartier quartier général des forces armées syriennes a été pris pour cible. Israël qui masse par ailleurs des forces à la frontière. L'État hébreu a des visées sur la région et pourrait sortir de tout cela grand gagnant.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véro. Sachez enfin que dans la bande de Gaza, une vingtaine de Palestiniens ont encore été tués aujourd'hui à proximité d'un site qui distribuait de l'aide alimentaire, un site géré par la controversée Fondation humanitaire de Gaza. Depuis bientôt 2 ans, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies affirme qu'au moins 875 Palestiniens sont morts dans les mêmes circonstances. De la grisaille et quelques averses au nord de la Loire, sur le sud, le soleil sera bien présent. Les températures iront cet après-midi de 19 à 36 degrés. C'est la fin de ce journal réalisé avec Nicolas Paumet.